SEMcast, les podcasts du SEM.
Service, école, médias.
SEMcast,
votre rendez-vous numérique et pédagogique.
Bienvenue à toutes et à tous pour cet entretien du SEM. Cet entretien du SEM, c'est l'occasion pour vous de rencontrer, de discuter avec des experts ou des expertes de sujets numériques. Il y a des personnes qui nous écouteront à distance et en différé, et on les salue aussi. Certaines personnes ont envoyé des questions à l'avance, et puis pour les personnes qui sont en présence, l'idée c'est que ce soit vous qui posiez des questions. À l'invité qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui, c'est Lucien Ding.
Bonjour.
Bonjour. Ancien e-sportif et responsable de l'Académie Noétique à Genève.
C'est ça.
Alors, il va falloir nous expliquer tout ça. Je propose qu'on commence par une présentation un peu moins succincte que celle que je viens de donner.
Ok, alors je m'appelle Lucien Ding, j'ai 30 ans, j'ai eu un cursus scolaire, j'ai terminé mes études classiques, disons, j'ai fini mon collège, et après j'ai tenté plein de choses, et en parallèle fut un temps une carrière dans l'e-sport, disons, je mets des guillemets à professionnel, parce que dans les faits, quand on a été recruté, on a été dans les premières personnes en Suisse à être payé pour jouer à des jeux vidéo. Mais ce salaire était de 300 francs par mois. Donc voilà, c'était professionnalisant, disons, mais pas complètement professionnel. J'avais un travail à côté, ça fait 10 ans que je fais du travail social à côté, je travaille avec des personnes en situation de handicap. Et du coup, j'arrivais à concilier les deux. Mais à l'époque, je jouais pour la division e-sportive du Servette Football Club, le Servette Geneva e-sport, donc était des premières fois une institution dite classique, s'est intéressé à ce milieu-là et s'est vraiment lancé dedans. Après, il y a à Lausanne, il y a eu la même chose avec le Lausanne e-sport qui lui existe toujours, enfin le club existe toujours. Je crois que le FC Bâle s'était intéressé aussi à un moment. Enfin, il y a eu quelques institutions qui ne venaient pas du milieu du jeu vidéo à la base, parce que sinon les équipes e-sportives principales qu'on a en Suisse, c'est beaucoup des équipes qui sont là depuis longtemps. Par exemple, Noétique, pour laquelle je travaille maintenant, à la base, c'est une équipe e-sportive qui a été fondée en 2006, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, c'était des potes de gymnase ou autres qui ont fait une équipe parce que voilà, ils aimaient jouer ensemble. Et puis, au fil du temps, ces potes de gymnase sont devenus des adultes, des parents, et qui ont eu leurs préoccupations autour de ces sujets aussi, puis qui ont pu, qui se sont mis en tête de développer quelque chose pour aider les gens autour de tout ça. Et voilà. Puis après, après avoir terminé ma carrière sportive, disons, je me suis retrouvé chez Noétique. Ma dernière année en tant que joueur, c'était pour Noétique. Et vu que j'avais ce background dans le social aussi, quand il a fallu reprendre l'Académie à Genève, parce qu'à la base, c'était ma collègue qui s'occupe maintenant du canton de Vaud, qui était en charge de l'Académie de Genève, assez logiquement, ils m'ont proposé de... Voilà, parce que ça conciliait bien ces deux mondes, disons. Et voilà. Et après, Noétique, en tant qu'association, comme je disais, à la base, c'est une structure e-sportive qui s'est développée maintenant ce qui est Noétique Académie. Alors l'Académie, c'est un de nos pans, disons, mais c'est tous les soirs on propose des cours de jeux vidéo, chaque soir sur un jeu différent, pour les jeunes à partir de 8 ans. Il n'y a pas vraiment d'âge limite. Moi, à Genève, c'est 17, le plus âgé. Mais je disais, à Fribourg, on a un jeune de 43 ans. Donc, en fait, n'importe qui s'intéresse au monde du jeu vidéo et qui voudrait en apprendre un peu plus sur tout ça, ou même qui questionne sa pratique, est le bienvenu dans nos cours, quoi. Et donc, les jeunes viennent en fonction du jeu auquel ils jouent le plus souvent à la maison, ou aussi évidemment de leur disponibilité, vu que chaque soir, c'est un jeu différent. Et pendant ces cours, on a... le cours dure 2 heures, on a une première partie qui est plutôt une partie d'échauffement, disons, où on leur apprend que dans toute pratique sportive, dans toute pratique on va dire de performance en tout cas, c'est important de s'échauffer, parce qu'on pourrait dire qu'au même titre de l'opéra par exemple, aujourd'hui je pense qu'ils ne vont pas chanter sans s'être minimum préparé à l'avance. Donc dans toute pratique de performance, il faut s'échauffer, c'est important de se mettre dans les meilleures conditions pour performer ensuite. Après, on a un moment de discussion thématique où on va aborder chaque mois une des grandes problématiques du numérique, chaque semaine un peu différemment. Donc, pour donner des exemples, on fait le cyberharcèlement, l'animation Internet, les microtransactions dans les jeux, mais aussi des trucs genre l'esprit d'équipe, parce que jouer dans ta chambre tout seul derrière l'écran, c'est pas la même chose que de se rendre en physique sur un lieu. J'ai peut-être pas précisé, mais tous les cours sont en physique, les gens ne peuvent pas suivre les cours depuis chez eux. L'intérêt, c'est justement d'être ensemble, d'être dans un contexte où y a d'autres personnes qui partagent cette passion, et voilà. Et du coup, on fait l'esprit d'équipe, c'est pas du tout la même chose, mais aussi gestion du stress, des émotions, Voilà. Et après, la dernière partie du cours est, elle, la partie un peu plus compétitive, on va dire. Je dis compétitive, techniquement, elle est libre. Mais en général, quand ils sont libres, bah, ce qu'ils ont envie d'aller faire, c'est d'aller faire des parties compétitives parce que c'est ce qui les motive. Et voilà. À côté, on a d'autres interventions dans bibliothèque, maison de quartier, ludothèque. La semaine passée, j'étais avec des personnes âgées, j'ai travaillé avec des migrants. Enfin, en fait, un des trucs du... Alors nous, on traite spécifiquement du jeu vidéo, mais du coup, on a beaucoup font le parallèle avec le numérique en général. Et c'est vrai que bah, le truc, c'est que toutes les... de nos jours, toutes type de population a une problématique liée au numérique qui généralement lui est propre et qui l'amène à ben voilà, avoir des interrogations autour de tout ça, des, certains trucs. Un exemple que j'aime bien donner, c'est que pour les personnes âgées, la démocratisation du téléphone portable notamment et tout, c'est un peu un fléau parce que certains se plaignent de ben voilà, nos petits-enfants ne viennent plus nous voir, ils nous appellent. Mais à l'inverse, pour les migrants, ben, en fait, c'est exceptionnel parce que ben, une situation où avant, ils avaient très peu de contact avec la famille restée au pays, maintenant, en permanence, on peut filer un coup de fil à quelqu'un qui avant, on pouvait voir... très occasionnellement, ou alors qu'on avait au téléphone, ou voilà.
Peut-être qu'il y avait pas mal de questions sur votre carrière d'e-sportif, sur ce que c'est qu'un e-sportif, qu'est-ce qui fait, à quoi ça ressemble le quotidien d'un e-sportif. Alors, même si vous dites que vous, c'était pas du 100% e-sport, même quand vous étiez une carrière professionnelle, ça ressemble à quoi?
Alors, bah, ce dont moi je vais parler, c'est, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai été recruté en 2017, je crois. Bon, en gros, il y a 7-8 ans, donc c'est une industrie, un monde qui a bien évolué, mais où... Bah alors, moi, à l'époque, c'était, comme je disais, j'avais ce travail à côté, puis bah, quand je rentrais chez moi, concrètement, je jouais. Il fallait que je joue. Je pense que je vais commencer par être honnête sur le fait qu'à ce moment-là, j'avais un usage excessif des jeux vidéo, clairement, et ça coïncidait bien avec la carrière professionnelle, on va dire, parce que bah, voilà, de pouvoir investir beaucoup de temps dans quelque chose, ça aide évidemment à devenir meilleur là-dedans. Alors je pense qu'il y a plein de gens qui investissent aussi beaucoup de temps dans des choses sans forcément avoir une approche correcte, on va dire. Enfin, on peut perdre beaucoup de temps en faisant quelque chose là où on peut employer son temps de manière un peu plus efficace, disons, autour de tout ça. Mais voilà, bah, du coup, c'était concrètement jouer beaucoup, participer à des tournois. Moi, je jouais à un jeu qui s'appelle Hearthstone, qui est un jeu de cartes en ligne, en gros, qui avait l'avantage d'avoir... Il y avait beaucoup de tournois disponibles un peu tout le temps. Donc, si j'avais envie de faire des compétitions, je pouvais faire des compétitions. Et bah, voilà, j'ai investi beaucoup de temps là-dedans. Ça s'est bien passé. Vu que j'ai eu des bons résultats, au même moment où Servette s'est lancé dans ce milieu-là, avec l'intention d'aller sur ce jeu aussi, bah, j'ai postulé et voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Une fois que j'ai été dans la structure, ça a un petit peu changé dans le sens où moi, j'étais responsable de la partie Hearthstone, donc j'avais aussi des responsabilités vis-à-vis de... parce qu'il y avait d'autres joueurs avec moi, donc j'avais des comptes à rendre un peu au niveau du club, donc un peu plus d'engagement, des retours, des réunions, ce genre de trucs. Mais disons, concrètement, derrière, ce que j'avais à faire, c'était toujours juste jouer à des jeux et avoir des résultats, on va dire, ce qui se passait plutôt bien. De nos jours, ça a beaucoup changé. L'encadrement professionnel d'une structure e-sportive, c'est le même que celui d'un club de foot. Enfin, il faut se dire que les plus grosses structures, ils ont diététiciens, ils ont préparateurs physiques, préparateurs mentaux, ils ont coach. Enfin, il y a tout. C'est vraiment ultra professionnel. C'est le but, c'est de nouveau, c'est de la performance. Donc, en fait, dans de la performance, ben, on cherche à optimiser ce qui va se faire, à mettre un peu toutes les armes de notre côté pour que ça se passe bien. Donc le quotidien des joueurs est beaucoup plus rythmé. Alors, tout dépend des structures, évidemment. Nous, on a eu, il y a 2 ans, par exemple, on a été rendre visite à une structure établie à Genève où on s'est rendu compte que, justement, ce n'était pas forcément si professionnel. Il y avait pas mal d'errance au niveau de certains des joueurs. On nous disait que certains pouvaient se lever à midi et c'était complètement OK. Moi, je vous avoue, j'étais aussi complètement là-dedans quand j'étais plus jeune. Mais dans le sens où, dans un contexte professionnel, bah, quand vous avez des collègues qui se lèvent à midi et que vous êtes là à 9h, pardon. Quand vous avez des collègues qui sont là pour 9h, puis vous êtes là à midi, c'est pas forcément toujours très juste. Mais je sais aussi qu'il y a de grandes structures, par exemple, une qui me vient en tête qui s'appelle G2, qui est une des plus grosses structures européennes. Ils ont vraiment un emploi du temps, genre à 10h, vous êtes là, de 10h à midi, on fait ça, de midi à 1h, c'est ça. Après, vous avez 1 heure de sport, après, vous avez 1 heure de préparation mentale. Ensuite, on va faire la première partie d'entraînement. Et après, en gros, votre journée, c'est un 10h, 18h, ultra rythmé, avec des périodes beaucoup plus intenses, parce que ben, à partir du moment où on a une obligation de résultats et de performance, il y a des échéances précises. Par exemple, je pense à un jeu qui s'appelle League of Legends, qui est le plus populaire en termes de viewers, de joueurs, etc. C'est probablement le jeu numéro un au monde, en tout cas en termes d'e-sport. Ils ont le circuit compétitif est réparti dans ce qu'ils appellent des splits. Donc voilà, c'est là en l'occurrence c'est 3 tiers sur l'année, et à la fin de chacun de ces tiers, ils ont les phases finales du truc. Donc c'est j'avais vu que récemment une équipe espagnole qui mettait leur planning pour le mois du truc, et c'est mais aberrant. C'est un mois quasiment à 14 heures par jour, avec éventuellement un jour de repos par semaine. Enfin, c'est vraiment ultra intense. Par contre, à l'inverse, une fois que ça s'est terminé, ils ont genre un mois où ils n'ont plus rien, disons, ou très peu d'obligations. Alors après, dans les faits, une bonne partie de ces joueurs passent le mois à streamer et jouent quasiment autant de temps qu'ils pouvaient jouer avant, mais voilà. Donc,
Streamer peut-être
Oui, pardon. Streamer, c'est du coup, c'est la pratique de se filmer en train de jouer à un jeu. Alors, on n'est pas toujours obligé de se filmer soi, mais en tout cas, on filme son écran. Généralement, les gens font les deux parce qu'en termes d'interaction avec le public et tout, ça marche mieux. Mais du coup, voilà, c'est la pratique du jeu vidéo qu'on peut diffuser aux autres, au même titre qu'on pourrait filmer son entraînement de tennis, on va dire, et puis partager ça avec des gens qui apprécieraient de voir comment on s'entraîne au tennis. Ben, voilà.
Ça, c'est pour un complément financier ou c'est par plaisir de streamer ?
Alors, ça dépend. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a une autre facette encore, c'est simplement une obligation de travail, okay. Dans le sens où pour beaucoup, quand vous êtes une structure e-sportive, un joueur compétitif, ça coûte cher. Les retours sur investissement ne se font pas par le biais des compétitions. L'argent que rapporte la compétition, c'est pas assez. Et généralement, en fait, une bonne partie revient aussi aux joueurs. Donc, c'est plutôt derrière le sponsoring, le merchandising. Et en fait, du coup, un joueur réputé qui va se mettre à streamer, c'est une manière d'avoir de la visibilité, donc de l'exposition, de pouvoir vendre le merchandising qu'on a à proposer, ce genre de choses. Du coup, souvent, dans le contrat des joueurs, en fait, c'est prévu qu'ils aient un temps de streaming. Enfin, d'une manière ou d'une autre, des demandes au niveau de la représentation pour que la structure y retrouve quelque chose derrière aussi.
Une petite question par rapport, on dit des structures d'e-sport. E-sport, c'est comme si on dit des sports de balle. On a du foot, du tennis, du cricket, du golf, etc. E-sport, ça regroupe énormément de jeux. Est-ce qu'on peut en arriver à cibler un petit peu ? Il y a des jeux qui sont plus professionnalisants que d'autres ? Comment ça fonctionne ?
Alors, il y a des jeux qu'on pourrait catégoriser comme étant justement plus populaires que d'autres. Après, il y a encore une notion dans l'impopularité à distinguer, dans le sens où il y a des jeux qui sont très populaires au global, disons. Par exemple, je pense à Fortnite, qui a été pendant très longtemps le jeu numéro un et tout. Par contre, en termes e-sportifs, en termes de vues sur les compétitions et ce genre de trucs, c'était pas forcément aussi haut que certains autres jeux. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a généré énormément d'engouement chez un public beaucoup plus jeune et donc peut-être aussi un peu moins attiré par ce genre de contenu-là. Là où à côté, sur d'autres jeux, par exemple League of Legends, le jeu a 15 ans maintenant, je crois, à peu près. Et c'est quasiment depuis 15 ans le jeu numéro un en termes de compétition et compagnie. C'est ultra suivi et voilà. Donc, les jeux rentrent un peu chacun dans des catégories différentes. Puis après, justement, il y a encore l'engouement autour du jeu derrière. Par exemple, je parlais avant du jeu auquel moi je jouais, qui est Hearthstone, qui est un jeu de cartes. C'est un peu plus niche. Pendant un temps, il y avait pas mal de gens qui regardaient. Mais comme un peu tous les jeux de niche, au bout d'un moment, ça s'est érodé. Et puis, en fait, maintenant, il y a toujours des gens qui regardent, mais la compétition, c'est pratiquement mort. Enfin, le jeu a perdu sa gloire d'antan.
Des e-sportifs professionnels en Suisse, il y en a combien ? Un ordre de grandeur, c'est
vraiment, quoi, vraiment très peu. Oui. Je pense, à l'heure actuelle, je suis plus complètement investi dans la scène comme je pouvais l'être avant, mais avant, en fait, simplement, les e-sportifs professionnels d'origine suisse, c'était tous exportés. Parce qu'en fait, la réalité financière de la Suisse, des structures de l'époque, pour vous donner un exemple, Logitech, que vous connaissez probablement tous, qui est une marque suisse, a mis très, 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 mais vraiment très longtemps à sponsoriser des marques suisses. Avant, on le voyait sur les maillots, des G2 et ce genre de grosses structures à l'international, mais pour avoir un soutien de leur part en Suisse. Mais je me souviens qu'à l'époque, avec Servette, on les avait beaucoup contactés, même juste pour avoir du matériel, et même ça, c'était compliqué, quoi. Donc, des joueurs professionnels, j'ai des noms qui me viennent en tête, mais en fait, c'est tous les gens qui finalement sont partis en France, en Allemagne ou comme ça, parce que c'était beaucoup plus facile de trouver une structure qui était prête à les payer 2 000 euros et donc qu'ils aient un train de vie relativement confortable en France, plutôt que d'avoir une structure qui, ici, en Suisse, allait pouvoir leur proposer un salaire qui permettait de vivre de ça décemment. Donc, ouais. Je pense qu'il y en a une dizaine, disons, mais, okay. Mais généralement, ils ne sont plus vraiment ici, quoi.
Ouais. Moi, j'avais justement une question pour rebondir par rapport au Servette FC. J'ai mon fils qui joue. Et puis, il avait rencontré à l'époque, justement, l'équipe de e-sport. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait pu y avoir des synergies entre l'équipe de e-sport et le sport conventionnel, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, au niveau de la préparation, sachant que, bon, n'y a pas tout à fait les mêmes demandes, que d'un côté, c'est plus physique, d'un autre côté, plus mental. Mais on constate que le mental, chez des sportifs de haut niveau, à un moment donné, c'est quand même ce qui fait la différence et qui, je pense, est peut-être le facteur prépondérant dans le e-sport.
Alors, du temps où moi j'étais chez Servette, on avait relativement peu d'encadrement, disons. Enfin, c'était encore un truc assez nouveau. Ma perception de la chose, c'est qu'à l'époque, c'était une grosse opération de com' de la part du club pour essayer de faire revenir les jeunes dans les stades. Puisqu'en fait, ils ont décidé d'arrêter le projet e-sportif au moment où le Covid est arrivé. Ce qui, en termes de timing, n'est pas très malin et pas très logique, considérant que le sport traditionnel s'est mis en pause complète pendant 6 mois et que nous, on avait des tournois toutes les semaines. Donc, je pense que voilà, c'était pas forcément... Eux n'étaient pas forcément très investis dans le projet aussi. Donc, en termes d'encadrement, on avait assez peu de choses en place. Donc, de développer des synergies entre les deux clubs. Moi, personnellement, j'ai rencontré les membres du club de foot au gala de fin d'année du Servette, quoi. Enfin, parce qu'on était tous conviés au truc. Mais qu'il y ait des liens entre les deux, je pense que ce n'était pas du tout prévu de base. Aussi parce que ceux qui chapeautaient la division e-sportive n'étaient pas du tout ceux du football. Parce que le Servette, vu qu'ils ont le rugby, le football féminin, enfin, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, à l'époque, on avait le rugby, le football féminin. Donc, eux chapeautaient beaucoup de choses et pas du tout le football. Ouais, ah oui, maintenant c'est vrai qu'en plus il y a le hockey qui à l'époque c'était encore différent. Je crois que c'était encore. J'ai plus le nom de ce monsieur, mais enfin. Ouais. Oui, Fischer, ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, du coup, après, pour ce qui est justement de la préparation mentale et tout, c'est clair que c'est un truc qui est beaucoup abordé dans le cadre de l'e-sport. Je sais pas où on en est au niveau du sport traditionnel maintenant sur l'approche de ça. Je pense évidemment que c'est développé. Je sais pas si dans un club comme Servette ça l'est beaucoup. Mais oui, je pense qu'il y a des liens qui seraient faisables. Mais là, directement, j'en ai pas forcément qui me viennent en tête. Ouais. C'est clair que nous, notre préparation, elle était plus mentale que physique. Moi, je vois, surtout le jeu auquel j'ai joué, vu que c'est un jeu de cartes, il y a une variable, enfin, il y a la variance qui entre en compte. À partir du moment où il y a de la variance, en fait, il faut accepter le fait que des fois, vous pouvez avoir fait tout juste et vous perdrez quand même. C'est comme au poker, enfin, moi j'ai aussi beaucoup joué au poker et il y a ce truc-là aussi de, voilà, des fois vous avez la paire d'as, ce que vous faites c'est juste, 80% du temps vous êtes censé gagner, mais en fait vous tombez dans les 20% du temps où vous perdez. Et là l'important c'est d'arriver à mentalement tenir le truc de, parce que des fois on peut être, dans mon jeu je pouvais être le meilleur joueur du tournoi et perdre contre quelqu'un qui était un pur débutant, parce qu'en fait la loi du jeu fait que quelqu'un qui... Voilà, si les choses se passent comme elles se passent, il peut arriver ça, quoi. Et du coup, oui, c'est clair que, ça demande une capacité de faire abstraction de ce genre de choses, mais ça, personnellement, je l'ai pas développé par le biais du club ou comme ça. C'est quelque chose que j'ai dû faire moi, travailler autour de tout ça, quoi. Je sais pas si j'ai forcément répondu à la question, mais.
Alors, y a pas mal de questions qu'on a reçues à l'avance sur. Je pense que c'est les enseignants qui se demandent pour leurs élèves. Est-ce que d'abord des carrières d'e-sportifs, c'est des carrières que vous pourriez recommander aujourd'hui à des jeunes qui adorent jouer? Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer là-dedans?
Alors, recommander, je pense pas. Enfin, c'est compliqué de recommander si je prends mon exemple à moi. Mmh. C'est-à-dire que voilà, moi j'étais dans un usage problématique qui, heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelque chose de ça. Mais voilà, en tout cas, mon chemin, on va dire que je ne le recommanderais pas, clairement. Après, il y a le contexte d'être en Suisse, où comme je disais, c'est très compliqué de vivre de ça en Suisse, parce que on a un niveau de vie qui est plus élevé que nos pays voisins. On a aussi cette tendance, de manière générale, à un peu observer comment ça se passe autour de nous avant de se dire ok, qu'est-ce que nous on va faire et comment est-ce qu'on va mettre ça en place chez nous. Donc en fait, voilà, l'e-sport en Suisse, même si on a Geneva e-sport à Genève qui a fêté ses 10 ans cette année, en fait on en est encore au balbutiement de, voilà, d'une professionnalisation de tout ça, même s'il y a, on a une structure à Genève qui s'appelle BDS qui a une, qui est à portée internationale et tout, mais eux c'est un scénario assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a un mécène derrière qui aligne l'argent. Donc c'est soudainement, ils sont arrivés avec plein d'argent, ils ont pu faire quelque chose de très professionnel plutôt que ce soit quelque chose qui vraiment se construise petit à petit avec la scène. Après, je peux tout à fait comprendre que ce soit une perspective de carrière alléchante, parce que bah, c'est clair que jouer à des jeux vidéo et pouvoir être payé pour le faire, c'est chouette. Mais voilà, il faut être conscient que, bah, comme je pense que les carrières dans le sport traditionnel sont aussi assez proches de ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, enfin, beaucoup de gens qui auraient le niveau de faire ce genre de truc, mais pour qui il va manquer chaque fois un petit truc ou autre. Donc c'est, je pense, important de ne pas avoir en tête que ça, c'est, enfin, de ne pas avoir comme plan de carrière l'e-sport, mais d'être conscient que si on a des capacités, c'est possible d'essayer de faire des choses et de s'investir dedans. Donc beaucoup de jeux proposent un circuit de tournoi relativement amateur, disponible. Dans chaque pays, il y a une scène e-sportive plus ou moins développée qui peut permettre justement d'avoir un premier contact avec ce monde-là aussi et de se rendre compte si, oui ou non, ça nous intéresse de faire de la compète, parce qu'il y a des gens où simplement l'aspect compétitif n'est pas... enfin, on ne va pas les transcender, on ne va pas forcément les attirer. Donc en fait, devenir compétiteur, ce n'est pas forcément pour eux. Donc, c'est compliqué pour moi de vous dire oui, oui d'y aller, mais aussi parce qu'en fait, c'est un truc qui s'est tellement... récent encore, qu'il y a très peu de structures autour, enfin, il n'y a pas vraiment de tremplin comme on pourrait penser, où ben, vous parliez de votre fils qui fait du foot à Servette, peut-être qu'il est à Servette depuis qu'il a 6 ans, puis qu'en fait ça fait 10...
Plus tard, mais...
Ouais, ben, enfin, disons, les juniors du Servette prennent déjà des pépites dans l'optique de les avoir plus tard. Je sais que moi j'avais un pote, c'était la même chose, mais à Étoile Carouge à l'époque, enfin, donc il y a déjà autour de tout ça vraiment une structure qui cherche, même si c'est toujours très ludique et qu'évidemment qu'on n'est pas en train de dire à des enfants de 6 ans que oh, t'es la future tête d'affiche de notre club, il y a quand même un truc derrière où ben, ils ont déjà repéré leurs joueurs. Moi, je vois le nombre de fois où je lis l'histoire d'un profil qui est parti, je ne sais pas, à Bâle, 19 ans, puis en fait, qui a fait toute sa formation à Servette. On sous-entend que ça fait 10 ans qu'il est chez nous, puis qu'il, voilà, on l'a formé. Donc, je pense que l'e-sport, de manière générale, manque encore de justement tout cet aspect tremplin, toute cette professionnalisation qui arrive de plus en plus. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez des structures e-sportives où vous avez vu des jeunes qui ont leur maillot et tout. Une des structures en France les plus connues, c'est la Carmine Corp. La Carmine Corp ont récemment lancé un projet qu'ils ont appelé Carmine Corp Blue Stars, qui est en fait un projet à vocation des jeunes. Je crois qu'il faut avoir moins de 17 ans pour pouvoir participer, pour pouvoir postuler. Où vraiment, le but, c'est d'essayer de proposer quelque chose de professionnalisant pour des jeunes qui auraient du talent et l'envie. Et voilà.
Mais ça veut dire qu'après, les jeux, ils sont aussi créés pour le tout public et il y a une partie professionnalisante. Donc, de la part des créateurs et concepteurs de jeux vidéo, est-ce qu'il y a un petit peu cette voie-là ? Ils essayent d'amener, de professionnaliser leurs jeux justement pour attirer du monde ? Ou bien c'est plus eux, ils font leur truc dans leur coin et puis il y a des gens qui viennent en pro dessus ?
Alors de nouveau, là, ça va tout dépendre de l'éditeur du jeu. Enfin, il y a des éditeurs qui vraiment encouragent ça, ont pris conscience que c'est une super vitrine pour leur jeu, que c'est une très bonne manière de donner envie aux gens de jouer, d'être... En fait, quand on essaie de devenir compétiteur, on s'investit beaucoup dans le jeu, donc on va y passer du temps. Enfin, eux ont un intérêt aussi à gagner là-dedans, là où d'autres n'y voient pas du tout d'intérêt. Au contraire, ne sont pas forcément opposés à ce qu'une scène existe, mais ne vont pas forcément de leur propre chef encourager ça, organiser le tout. Et alors après, il y a le dernier, c'est Nintendo, Nintendo, lui, à l'inverse, ne veut pas de scène e-sportive, il ne veut pas du tout être investi dedans. Ils ont déjà mis énormément de freins à beaucoup d'organisateurs de tournois et tout, parce qu'en fait, pour eux, le jeu vidéo, le gaming, ce n'est pas ça, quoi. Enfin, alors, ça s'améliore un petit peu, mais voilà, des échos que j'ai pu avoir, c'est vraiment les scènes compétitives sur les jeux Nintendo. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Super Smash Bros, qui existe depuis très longtemps, qui est très actif, qui a une scène super, super développée, mais en fait, qui est une scène qui dépend que de Nintendo. Au moins une fois par année, il y a un scandale parce que Nintendo, à 2 semaines d'un tournoi, fait annuler le tournoi parce que ça ne correspond pas à leurs attentes ou leurs trucs. Voilà. Donc, voilà, ça dépend un peu tout des entreprises. Mais oui, pour moi, je pense que c'est une très bonne vitrine pour les jeux et donc ils auraient plutôt intérêt à promouvoir ça. Et, mais c'est voilà, en fonction de la philosophie d'entreprise du jeu, quoi. Philosophie de l'entreprise, pardon.
On va pouvoir passer peut-être à des questions sur Noétique, puis ensuite, dans une troisième partie, on parlera des jeux vidéo et des adolescents. Mais est-ce que d'abord, il y a encore des questions sur le e-sport ?
Oui, bien sûr.
Ouais. Donc, vous avez parlé tout à l'heure d'addiction. Je voulais savoir si, étant donné les performances qui sont demandées aux joueurs, est-ce qu'on se retrouve aussi parfois avec des soucis de dopage dans le e-sport ?
Alors, il y a des grosses suspicions sur certains joueurs, oui. Des cas avérés, j'en ai pas forcément en tête parce que je pense que les contrôles sont aussi beaucoup moins répandus. Mais ouais, il y a pas mal de scènes où il y a des joueurs qui ont la réputation d'être sous Adderall, notamment par exemple la scène nord-américaine de Call of Duty, si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup d'accusations de mecs qui seraient voilà. Je sais qu'il y a d'autres joueurs où on parle de potentiellement de cocaïne. Enfin, alors il y a des manières évidemment de augmenter ses performances, on va dire, ou en tout cas de peut-être réduire l'impact de certaines soit des émotions qu'on peut vivre pendant le truc qui permettraient de rester plus focus ou ce genre de choses. Après, il n'y a pas eu jusqu'à présent un gros scandale en termes de dopage. Nous, on a notre dopage à nous qui est le cheat, la triche, où en fait ça, c'est encore un autre pan, c'est qu'il y a des joueurs qui en fait installent des programmes pour augmenter leur performance dans le jeu, donc quelque chose qui n'est pas prévu par le jeu mais qui a été développé par quelqu'un d'autre dans le but d'aider le joueur à mieux performer. Et ça, par contre, des scandales comme ça, il y en a eu sur à peu près tous les jeux. Ouais. Il y en a un, Word.exe, où il y a un mec qui est arrivé à un tournoi, il a branché sa souris, il avait un Word.exe sur l'ordi, c'était le seul à avoir Word.exe, puis ben, en fait, Word.exe, c'était son cheat. Et le mec s'est dit que, en mettant un truc aussi banal que Word, les gens ne se douteraient pas, quoi. C'était le seul qui avait Word en plein milieu de l'écran.
Noétique, qui est une structure associative, à Genève, mais pas que Genève, vous avez parlé de Fribourg, donc à plusieurs endroits, et qui reçoit des jeunes jusqu'à, vous avez dit, 40 et quelques années, des jeunes joueurs. Dans quel objectif ?
Alors, comme je dis, il y a deux objectifs, plusieurs objectifs, mais disons, il y a deux pans au truc. Pour les jeunes, ils viennent dans un espace où ils vont s'améliorer, oui, parce qu'avant, je n'avais pas précisé, mais pendant les cours, il y a aussi, moi, je suis là pour toute la partie éducative, justement, la discussion thématique, etc., mais aussi le lien avec les parents, tout ce genre de choses. Mais à côté, dans chacun des cours, on a un coach qui est présent. Donc c'est quelqu'un qui a un jour ou l'autre fait de la compétition sur un jeu ou en tout cas atteint un niveau assez haut pour avoir une légitimité auprès des jeunes pour les aider à s'améliorer. Et du coup, les jeunes viennent s'améliorer, mais aussi être dans un espace où ils peuvent partager cette passion avec d'autres jeunes aussi. Et à côté, pour les parents, on est un espace où les jeunes peuvent sociabiliser, parce que pour beaucoup, c'est un enjeu, mais aussi apprendre à se responsabiliser vis-à-vis de leur pratique, d'avoir justement par les discussions qu'on peut avoir des remises en question autour de tout ça, et donc d'être concrètement d'être sensibilisé aux bonnes pratiques numériques, on va dire.
C'est subventionné par
On est subventionné par l'État et la ville de Genève, ouais. Et à côté, l'inscription, il y a une cotisation semestrielle pour les cours qui est assez basse, qui est de 250 francs, mais voilà, ça force les gens à s'engager un minimum, parce que si malheureusement on fait des cours gratuits, on n'est pas toujours sûr d'avoir des gens qui viennent d'une semaine à l'autre. Donc,
et vous n'êtes pas trop victime de votre succès ?
Alors pour l'instant pas trop, non, au contraire. On a même, à Genève, parce que du coup on est actif à Fribourg, dans le canton de Vaud et à Genève, et dans le canton de Vaud et à Genève, on a beaucoup de peine à faire entendre parler de nous. C'est compliqué, pourtant on essaye de plein de manières. J'ai distribué des flyers dans les lieux concernés. On fait des mails génériques. On fait des pubs sur les réseaux sociaux. Et on sait pas. On a de la peine à toucher un public. En général, quand les gens entendent parler de nous, ils me disent que c'est super. Et après, dans les faits, généralement, ils rappellent pas derrière. Mais voilà.
Est-ce que les jeunes sont contents aussi ? Parce que les parents sont très contents, je crois. Mais les jeunes ?
Alors, les retours des jeunes sont bons aussi. Enfin, j'ai assez peu de jeunes qui arrêtent, mm-hmm. au contraire même qui continuent. J'en ai même qui essayent de... qui me demandent si c'est possible de faire plus de cours, d'ouvrir d'autres cours sur le même jeu pour avoir d'autres créneaux pendant la semaine. Enfin, voilà. Généralement, les gens sont contents. Voilà. Maintenant, la question, c'est d'arriver à atteindre un public un peu plus large, quoi.
Ils arrivent à s'intéresser donc pas seulement à la partie performance, mais à ces parties un peu autour du jeu, méta-jeu.
Alors plus ou moins. Okay. Ça dépend le sujet, ça dépend le public. En fait, en fonction des cours, j'ai des publics plus ou moins jeunes. Typiquement, les publics plus jeunes sont moins réceptifs à certaines des thématiques. Là où un public un peu plus âgé se pose déjà peut-être un peu plus de questions sur justement ses pratiques, sa consommation et est plus réceptif à certains trucs. Là où, voilà, le public plus jeune est aussi... Enfin, de manière générale, ils sont réceptifs, mais moins à certains trucs que, voilà, que les plus âgés, disons. Alors, eux viennent clairement pas pour ça, on va pas se voiler la face. Hein. En général, quand je leur dis c'est bon, il faut faire la pause maintenant, c'est le moment hors écran, on va faire la discussion thématique et tout, ils sont pas en mode ouh, super! Enfin, voilà. Mais ils se prennent au jeu, ils participent, ils sont actifs. Moi, j'ai clairement vu des changements chez certains profils. Enfin, on a des jeunes qui sont arrivés avec des problématiques assez sérieuses, on va dire. Enfin, genre des milliers de francs dépensés sur Fortnite et qui maintenant se posent la question, avant d'acheter un skin, est-ce que vraiment j'ai besoin ou envie de ce skin-là ? Chose qui avant, c'était juste, j'ai les sous, j'y vais, quoi. Je le veux, je le prends. Voilà, quand à 12-13 ans, on en est à plusieurs milliers de francs sur Fortnite, c'est conséquent.
Donc en fait, ça veut dire que le but aussi de ces cours-là, c'est d'encadrer la pratique du jeu ou bien c'est plutôt de faire découvrir le jeu avec l'environnement ?
Alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai des jeunes qui arrivent et qui n'ont pratiquement pas joué au jeu quand ils viennent faire les cours. Donc, généralement, c'est assez sport parce que le décalage entre eux et les autres fait que... Ben voilà. Mais concrètement, c'est aussi un endroit où ils peuvent juste s'améliorer s'ils ont une certaine pratique déjà ou pas.
Les enfants qui arrivent là, ceux qui sont là plutôt pour le côté compétitif, ils ont en général, je pense, un jeu dans lequel on est compétitif. On ne peut pas tellement être compétitif dans plusieurs jeux. Les cours qui sont proposés, ils vont toucher un peu à tous les jeux ou alors ils vont être spécialisés, ils vont avoir des intervenants, ils vont être répartis dans différents groupes pour les jeux auxquels ils jouent.
Alors en fait, chaque soir, on a un cours sur un jeu spécifique. Okay. Genre le mardi, c'est Minecraft, le mercredi, c'est Valorant, le jeudi, c'est Fortnite, et le vendredi, on a deux cours à la suite. On a League of Legends, puis Rocket League. Okay. Donc en fait, les jeunes viennent en fonction, comme je disais, de leur jeu de prédilection, si les horaires correspondent. J'ai un jeune, son jeu de prédilection, c'est Fortnite, mais il vient à Minecraft parce que, en fait, le jeudi soir, il a déjà football, donc il peut pas.
Mais il a quand même envie de faire des jeux vidéo, donc il vient quand même.
Ouais, okay. Et puis pour ses parents, ça fait du sens qu'il soit... aussi sensibiliser justement, et alors même si du coup c'est sur la pratique d'un jeu auquel il joue un peu moins, il n'empêche que ça lui permet d'avoir une réflexion autour de sa pratique générale, parce que les thématiques qu'on propose sont communes, on n'a pas des thématiques propres à chaque jeu. Après, en fonction des jeux, c'est plus ou moins parlant. Par exemple, j'allais dire Minecraft, il n'y a pas de microtransactions, mais maintenant si, mais pendant longtemps c'était un jeu où il n'y avait pas de microtransactions par exemple, et du coup ce sujet-là était peut-être un peu moins pertinent pour les jeunes, même si ça pouvait faire écho à certains autres jeux auxquels ils peuvent jouer. Dans Brawl Stars, il y a beaucoup de microtransactions, il y a pas mal de... Enfin...
Et il y a un aspect un peu moins compétitif dans Minecraft, donc j'imagine le cours jeu vidéo, il a une autre tournure qu'avec Rocket League ou d'autres jeux très compétitifs.
Alors Minecraft, justement, c'est un cas un peu à part, où, comme tu dis, il n'y a pas du tout de compétition. C'est pas un jeu compétitif, même s'il y a des facettes du jeu qu'on peut prendre compétitivement, et tout, exactement, le speedrun, ou des jeux genre des trucs genre les Bed Wars, ce genre de trucs. Mm-hmm. Mais... globalement, c'est un jeu qu'on appelle bac à sable, où le but, c'est juste de développer sa maison, son espace et trucs. Donc, au tout début, quand on a commencé le cours, c'était un cours qu'on appelait de reconstitution, en fait, où les jeunes refaisaient. Nous, on a pu trouver la carte de Genève avec zone verte, c'était justement tous les espaces verts, le gris, c'était la route, et tout ce qui était jaune, c'était les bâtiments. Et en fait, les jeunes sont venus reconstituer les bâtiments dans le jeu. Donc, moi, quand j'ai commencé, on a fait du coup tout le quartier de la gare, donc on avait la gare de Genève avec un peu tout ce qui était autour. Malheureusement, c'est un format qui ne marchait pas très bien avec notre public, qui était relativement jeune. Qui, en fait, nous, on a importé ce format qui se faisait à Fribourg, où à Fribourg, ils avaient un public un peu plus âgé, plutôt vers 15-18 pour Minecraft, là où nous, c'était plutôt 10-13. et où du coup, en fait, eux, la reconstitution, et voilà, eux, ils étaient là pour jouer. Mm-hmm. Et c'est vrai que reconstituer des trucs, si ça vient de toi, c'est chouette. Ça allait peut-être un peu moins quand c'est comme ça toutes les semaines et tout. Donc, petit à petit, on avait développé, enfin, on avait réparti le cours en deux. Où, bah, d'habitude, il y a plutôt la partie échauffement et compagnie. Là, dans ce jeu-là, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, on avait la première partie qui était la reconstitution et la deuxième partie qui était de la survie, donc qui est le mode de jeu un peu classique du jeu, de Minecraft où vous allez évoluer, faire un peu l'aventure, etc. Et donc, finalement, ce que nous, on apportait là-dedans, c'était bah, en fait, d'avoir des jeunes qui apprenaient à jouer ensemble et apprenaient les règles du bien vivre ensemble, les genres de trucs où, bah, au tout début, dans Minecraft, vous récoltez des ressources, vous allez voilà, miner des choses pour avoir des ressources et à partir de ces ressources, faire d'autres trucs. Mais du coup, bah, au début, vous avez genre, le bronze, après le fer, après, vous allez graduellement augmenter l'argent, l'or, etc. Et puis, bah, les trucs un peu clés. Le but, c'est d'avoir du diamant pour se faire son armure en diamant, son épée en diamant, etc. etc. Et bah, au tout début, quand quelqu'un avait du diamant et quelqu'un d'autre avait besoin de diamant, bah, il allait se servir, quoi. Ce qui menait généralement à des problèmes, parce que pour en arriver au diamant, il faut avoir passé un certain temps, une certaine maîtrise, etc. Et après quelques mois, bah, on est arrivé à des jeunes qui arrivaient à faire de l'échange, à justement se dire « Ok, bah, en fait, moi, je suis plutôt dans l'agriculture, donc si tu as besoin de bouffe, bah, je t'envoie 10 poulets si tu me files un diamant. » Et puis, voilà, ce qui est... Ça a l'air tout bête et au début c'était dur de conceptualiser le truc parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait avec ce cours aussi vu qu'on avait abandonné une partie de ce qu'on pouvait faire de base pour bah, finalement se rendre compte que eux dans les liens entre eux, bah, voilà, on les a aidés justement à réussir à interagir correctement, à aller faire des trucs ensemble. Au début c'était un peu chacun dans son coin puis on se débrouille, puis d'un coup bah, ils se sont rendus compte que ouais, en fait, si je fais tout moi, par moi-même, bah, j'y arrive pas, ou c'est trop long, ou c'est galère. Donc soit ils se demandent des coups de main pour aller affronter tel ou tel monstre parce que bah, c'est plus facile d'y aller à deux, de réussir la première fois, plutôt que de le tenter 5 fois tout seul et de le rater. Donc, enfin, voilà.
Et je voulais juste revenir un peu sur la partie compétitive par rapport à ce qu'on disait avant. Je reprends l'exemple du foot, j'en ai fait aussi quand même pas mal de temps. On avait 1, 2, 3, jusqu'à 3 entraînements par semaine pour préparer le match du week-end, en fait. Mmh. Et c'était un peu l'objectif, quelque part. On ne s'entraînait pas juste pour s'entraîner, il y avait le match le week-end. Est-ce que dans ta structure, par exemple, quand ils s'entraînent, je sais pas, moi je suis grand joueur de Rocket League, ils s'entraînent à Rocket League, est-ce qu'il y a un objectif, par exemple, est-ce qu'il y a un moment où on leur dit, ok, là, on va faire un tournoi, on va faire une compète, ou il y a quelque chose qui s'organise autour de ça ?
Alors, si c'est une demande de leur part, c'est tout à fait faisable. Par exemple, dans le cadre de Rocket League, bah, le soir, il y a des tournois sur le jeu, mm-hmm. donc c'est pas rare qu'ils se disent, ok, bah, là, ce cours-là, on fait la première demi-heure, on se prépare, et puis à 20h, genre, il y a le tournoi, donc à 20h, on fait le tournoi. Et du coup, il y a justement une préparation autour de ça. Après, pour ce qui est des tournois hors cadre, on va dire, bah, les LAN, donc les LAN, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tournois qui se font en physique, où les gens prennent leurs ordinateurs, leurs trucs, se rendent tous ensemble dans une même salle, puis vont passer 3-4 jours. Bah, là, il y en a une des plus grandes de Suisse qui démarre demain à Lausanne, à l'espace Beaulieu, la Polylan. Et où bah, voilà, il va y avoir... des milliers de joueurs dans l'espace Beaulieu qui vont être là pour faire leur tournoi et tout. Alors si on a des jeunes qui arrivent avec l'idée de justement essayer de performer dans ce genre de compétition parce qu'ils ont décidé d'y aller avec leurs potes, évidemment qu'on va essayer de mettre en place avec eux des choses pour qu'ils soient prêts. Okay. Après, moi ça m'est arrivé qu'une fois, c'était pas par rapport à la Polyland, c'était par rapport à un tournoi en ligne de Fortnite où bah, j'ai deux jeunes qui sont venus me voir en me disant bah, « voilà, on veut faire le tournoi ensemble, c'est dans un mois et demi, on aimerait être le plus possible prêt. » Puis du coup on a réfléchi avec le coach à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour que dans le cours, eux, aient quand même justement l'impression en tout cas de s'améliorer et puis d'avoir un fil rouge un peu de qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi à la maison. Quoi.
Ça marche.
Après, je préciserai juste encore un dernier truc, c'est que nous, à Noetic, on ne vend pas aux jeunes, on ne vend pas une carrière e-sportive. Ouais. On essaie vraiment tu parlais des 3 entraînements de football avant. Nous, jamais on fera 3 cours de Rocket League pendant la semaine aux jeunes parce que ça ne correspond pas non plus à ce qu'on essaie d'amener. Enfin, si eux veulent passer ce temps-là chez eux, aucun souci. Mais voilà, malheureusement, nous, on ne peut pas proposer ça non plus. Quoi.
Dans la grille horaire des jeux qui sont proposés, j'ai vu qu'il y avait des jeux comme Valorant qui sont PEGI 16 et que les âges que vous avez donnés des participants sont plutôt... un peu en dessous. Et comment ça se passe par rapport à ça? En tout cas, à Genève, il n'y a pas des PEGI 18, mais j'ai vu qu'à Fribourg, par exemple, il y a Counter-Strike 2. Comment ça se passe par rapport à ces jeux? Parce qu'on sait que dans le quotidien, les enfants, enfin les joueurs, ne respectent pas forcément ces normes. Mais voilà, qu'est-ce qui est mis en place par rapport à tout ça?
Ouais. Alors, bah déjà, c'est très bien de parler de normes, parce que justement, c'est une norme, c'est pas une règle. Enfin, il n'y a pas d'application concrète de la chose, même si depuis le 1er janvier de cette année, en Suisse, on a passé l'obligation en termes de vente de respecter les âges. C'est-à-dire que l'aberration, je l'ai appris aussi quand la loi a été passée. Jusqu'à présent, dans certains cantons en Suisse, même s'il y avait un âge indiqué sur la boîte, on s'en fiche. Donc vous pouviez avoir 5 ans, aller à la FNAC dans tel ou tel canton, prendre GTA 5, aller à la caisse et personne n'allait vous poser de questions. C'était, voilà, c'était pas dans les règlements. Alors, en vue d'améliorer tout ça, bah justement la Suisse, on a imposé maintenant qu'il y ait un minimum, un contrôle de l'âge de l'enfant quand il vient acheter le jeu. Après, pour ce qui est de notre positionnement par rapport à tout ça, c'est que, alors déjà, comme on dit, c'est des normes qui sont relativement arbitraire. Pour donner un exemple, Valorant, comme vous disiez avant, c'est 16 ans, mais en fait, il faut savoir que dans Valorant, vous pouvez désactiver tout le sang, vous pouvez désactiver en fait tous les aspects qui généralement sont problématiques pour les parents. Parce que finalement, le fait que le jeu, ce soit un jeu de tir, c'est problématique pour certains, mais si on y réfléchit, il y a beaucoup d'autres contextes dans la vie où en fait, on laisse les jeunes aussi incarner la violence sans que ce soit perçu problématiquement, à l'inverse des jeux vidéo. Le meilleur exemple pour moi, c'est en été, quand il fait chaud, bataille de pistolet à eau dans le jardin. Vous êtes rarement autant, enfin vous incarnez rarement autant la violence, on va dire, quand vous avez littéralement un pistolet dans les mains à tirer sur quelqu'un d'autre dans l'intention, enfin, avec une certaine intention, etc. Là où, bah voilà, pour beaucoup de gens, que ce soit dans un jeu, par le biais d'une manette ou d'un truc, ça pose problème. Donc, Valorant, par exemple, est classé 16 ans, là où un autre jeu qui s'appelle It Takes Two, qui est un jeu extraordinaire, que je recommande vraiment à faire si vous voulez vous intéresser aux jeux vidéo, à faire en famille, ce genre de trucs. C'est un jeu qui se joue à deux, qui, bah, si je ne dis pas de bêtises, l'année où il est sorti, a eu jeu de l'année, et qui a un PEGI à 12, je crois, alors qu'il n'y a absolument aucune violence. Alors oui, à un moment, vous avez un truc qui est censé représenter... Vous avez un pistolet à aiguille de cactus, enfin, vous tirez des aiguilles de cactus, donc... Ça va, c'est relativement safe. Mais en fait, c'est un jeu qui traite de la thématique du divorce. C'est deux parents qui sont en train de se séparer. Leur fille a beaucoup de peine avec ça. Et en fait, un jour, elle pleure. Et en fait, elle jette un sort à ses parents par ses larmes, qui se retrouvent transformés en petites poupées et qui doivent en fait cheminer jusqu'à réussir à retrouver leur corps d'origine. Et en fait, le jeu a été mis PEGI 12 parce que finalement, c'est une thématique qui est très lourde pour des enfants qui seraient amenés à jouer tout seuls. Si vous avez deux enfants de 7-8 ans qui font le jeu ensemble à deux, sans un regard adulte derrière et sur ce qui se passe et tout, en fait, ça peut générer énormément de choses et en fait, bah laisser ces enfants un peu désemparés par la situation et ce qu'ils ont pu vivre et tout. Donc, il y a bah finalement un parent qui prendrait content le truc, il dirait bah « en fait, non, vous n'avez pas 12 ans, vous n'avez pas joué à ce jeu-là ». Alors qu'en fait, si... Bah, il y a un travail derrière qui est fait. S'il y a un adulte, bah par exemple, un parent pourrait jouer à ce jeu-là avec son enfant pour peut-être pouvoir parler plus facilement de la situation et tout. Et voilà, nous, on pense qu'il ne faut pas s'arrêter strictement à l'âge parce que voilà, c'est des normes et qu'il y a des raisons derrière plus ou moins valides d'avoir mis ces âges-là. Et pour ce qui est de nos cours, on part du principe que, en fait, si les jeunes jouent déjà à la maison, qui on est pour dire qu'ils n'ont pas le droit de jouer à ce jeu-là? Et surtout, ce serait dommage de s'arrêter arbitrairement à bah non, en fait, tu ne devrais pas jouer à ce jeu-là, donc tu ne viendrais pas chez nous, et donc qu'ils perdent potentiellement ce qu'ils auraient à gagner à venir ici.
Voilà. Avec quand même l'accord parental.
Évidemment, évidemment. Alors, il y a toujours. Un jeune de 12 ans ne va pas pouvoir débarquer au cours Counter-Strike et dire non, c'est tout bon, mes parents m'ont dit ok. Il y a toujours un contact avec les parents, l'inscription se fait de base par le biais des parents, sauf si le jeune est majeur, du coup. Mais voilà, non, non, c'est.
Et puis après, tu disais aussi il faut un regard adulte pour accompagner le joueur. Mais en fait, on n'est pas très souvent dans cette problématique-là où en fait, les parents ils sont complètement déconnectés de cette réalité-là et ils ne savent pas comment amener ce regard de manière pertinente.
Ouais. Alors, un des trucs qu'on encourage beaucoup les parents à faire, c'est s'intéresser. Ça paraît tout bête, mais en fait, on s'est rendu compte que dans beaucoup de contextes, les problématiques qu'il pouvait y avoir à la maison sont beaucoup liées à un désintérêt des parents de ça, une peur pour certains du monde numérique ou d'un truc qui leur échappe et donc vers lequel ils n'ont pas vraiment envie de s'investir. Enfin, on a des parents qui ne connaissent rien au jeu de leur enfant, alors que ça fait 3 ans que leur enfant y joue tous les soirs à ça. Et à l'inverse, on dit, mais si votre gamin il était arrivé et qu'il vous avait dit, à partir d'aujourd'hui, je veux faire de la cornemuse, bah, probablement que vous seriez un minimum intéressé à la cornemuse et à son fonctionnement. Alors qu'à l'inverse, pour beaucoup de choses liées au numérique, il y a beaucoup de parents qui ne s'investissent pas dans le sujet. Et c'est, voilà, on pense des problématiques principales. Un autre exemple, c'est, vous avez probablement déjà entendu parler du 36912 de Serge Tisseron, qui sont des balises autour du numérique, justement. Genre, c'est dans ces balises-là qu'a été dit pas d'écran avant 3 ans. Mais en fait, Serge Tisseron, qui a posé ces balises, a dit pas d'écran non accompagné avant 3 ans. Et en fait, énormément de gens ont juste entendu pas d'écran avant 3 ans. Et lui a dû faire tout un travail derrière pour déconstruire ce que lui-même avait posé parce que les gens l'ont interprété à leur sauce. Parce qu'en fait, il dit non, il n'y a pas de problème foncièrement à ce qu'un enfant ait un écran, soit devant un écran à un moment de la journée. Mais le problème, c'est s'il le fait tout seul, si justement il n'y a pas la supervision des parents pour se rendre compte des problèmes qui pourraient être problématiques, mais aussi pouvoir justement discuter de ce qui s'y passe, de ce qu'on voit, etc. Donc c'est effectivement souvent une absence un peu des parents dans ce genre de truc.
Mais ça peut être la problématique justement liée au jeu lui-même par rapport à l'aventure. On parlait du jeu avec le divorce, on pourrait parler aussi avec les armes ou les choses comme ça, mais il y a aussi tout l'aspect micro-transaction et puis l'aspect répétitif et puis une sorte d'addiction, oui. Avec le on veut toujours plus, il faut absolument y aller encore plus, ouais. Mais là on est dans d'autres problématiques qui sont plus du tout liées en fait au jeu même, mais plus à la structure du marché numérique.
Oui. Ouais, alors l'industrie vidéoludique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que tous les jeux sont gratuits. Hein. Faut le savoir. À l'époque, on allait à la Fnac, on payait 80 balles, on avait notre boîte et notre jeu. Maintenant, les jeux sont gratos. Par contre, en permanence, je ne sais pas si vous avez déjà lancé Fortnite, mais une fois que vous lancez Fortnite, avant de pouvoir cliquer sur jouer pour lancer votre partie, vous avez genre 3 fenêtres de boutique à fermer, qui sont en permanence des encouragements à consommer. Et quand vous êtes enfant et pas forcément au courant de ces mécanismes, pas forcément avec la retenue nécessaire vis-à-vis de tout ça, puis que vous avez le skin d'Eminem, le skin de Snoop Dogg, le skin de trucs qui apparaissent sur l'écran, puis que vos copains ils sont là genre « Ah ouais, celui-là, il est trop stylé ce... !» C'est logiquement, vous consommez, quoi. Alors derrière, il y a encore des mécanismes encore plus vicieux. Je parlais de l'exemple de Valorant, précisément, qui a... Valorant, vous avez donc le jeu gratuit, il y a énormément de cosmétiques, donc de skins, de choses... Enfin, un skin, pour ceux qui ne voient pas, c'est juste... imaginons que vous avez un pistolet, de base il est noir, vous pouvez acheter le même pistolet en rouge et ça vaut 2 balles, et vous avez le pistolet rouge. Puis après il y a le bleu pour 2 balles, puis après le bleu et rouge pour 3,50, voilà. Et du coup les jeunes en permanence, dans un souci notamment d'identité aussi, parce que c'est une manière de se démarquer des autres, vont justement acheter assez facilement des skins et tout. Et donc dans Valorant, vous avez une boutique qui n'est pas accès, vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez acheter quand vous le voulez. C'est-à-dire que vous avez tous les jours, toutes les 24 heures, vous avez le droit d'acheter ces exemplaires-là de la boutique. Enfin, ce qui est là, disponible, c'est ce que vous pouvez acheter aujourd'hui pendant 24 heures. Et comment ils déterminent ce qu'ils vont vous mettre en vente? Ils vont regarder ce que vous avez tendance à aller voir dans la boutique, ils vont regarder ce que vous avez tendance à utiliser dans le jeu, parce que vous pouvez, par exemple, si vous éliminez un adversaire, vous pouvez ramasser son arme par terre, et en fait, s'ils remarquent qu'à chaque fois que vous ramassez l'arme bleu et blanc, peut-être que vous aimez bien ça en bleu et blanc. Du coup, le lendemain, on va vous proposer cette arme-là en bleu et rouge. Ou alors, une autre arme en bleu et blanc. Jusqu'au moment où, en fait, chaque jour, on vous propose des trucs qui sont pas exactement ce que vous voulez, mais pas si loin. Du coup, au bout d'un moment, vous craquez, vous achetez l'arme en question en bleu et rouge, et le lendemain, vous avez l'arme en question en bleu et blanc qui apparaît dans votre boutique. Donc en fait, au moment où vous craquez pour autre chose, là, on revient vers vous en vous donnant ce que vous attendiez jusque-là. Ils savent que vous allez craquer parce que, en fait, il y a ce truc de « j'ai que 24 heures pour l'acheter, si je ne l'achète pas maintenant, c'est quand la prochaine fois ?» Enfin, moi, j'ai un jeune qui, ça fait un an et demi maintenant qu'il vient dans les cours. Quasiment depuis le début, il nous a dit « je veux cette arme-là ». il a pu l'acheter le mois passé, je crois. Ça fait un an et demi quasiment qu'il attend de pouvoir acheter son truc. Et il n'y a aucun moyen d'acheter ça autrement que le jeu va vous le donner aujourd'hui. Vous avez le droit de l'acheter aujourd'hui. Ça joue énormément sur le FOMO, exactement. Donc, Fear of Missing Out, qui est justement le concept d'avoir peur de rater quelque chose, que ce soit les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a tendance on peut passer une heure à faire comme ça, juste parce qu'en fait, on a l'impression qu'on raterait quelque chose si on s'arrêtait de le faire. Ou ben là, dans le cadre de ces skins-là, ben c'est en fait, si ce jour-là, je n'achète pas ce skin-là, ben je ne le rachète plus. Et du coup, il faut le faire, quoi.
Et là, la limite d'âge ou les choses comme ça, elle joue pas du tout un rôle par rapport à justement ces publicités ou cette consommation derrière le jeu.
Malheureusement pas. Et c'est un des gros problèmes. En fait, voilà, il y a un problème de légifération de manière générale autour de tout ça, parce que ça joue sur des mécanismes psychologiques ultra bien. Enfin, la psychologie derrière, c'est ultra bien ficelé et ça vise des gamins. Et ces gamins sont amenés à naviguer là-dedans par eux-mêmes, sans vraiment de supervision, pas toujours avec une supervision parentale. Et donc, ils savent très bien que ça fonctionne super bien. Ils font des bénéfices exceptionnels depuis des années. Et malheureusement, on a de la peine à légiférer, mais c'est sur le numérique en général. Parce que si on regarde les réseaux sociaux, ça emploie des mécanismes qui sont extrêmement similaires. Il y a des dérives liées aux réseaux sociaux qui sont limite pire que ça, mais si vous créez un compte Instagram, brand new Instagram account, avec rien du tout, aucune prédisposition pour telle ou telle page ou truc, ils ont fait le test, je crois qu'en 15 minutes, en moins de 15 minutes, vous tombez sur du porno, du gore, vous allez forcément vous retrouver devant des images devant lesquelles vous ne devriez jamais vous retrouver en un temps, mais vraiment record. Et, ou alors, on peut parler d'intelligence artificielle. en fait, on n'a pas encore régulé les réseaux sociaux et on a déjà l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser même comment les réseaux sociaux fonctionnent. Enfin, malheureusement, je parlais avant de cette tendance à être un peu lent à réagir ensuite sur certaines choses. Je pense que pour le numérique, malheureusement, il faut qu'on agisse un peu plus vite parce que c'est un monde qui va tellement vite, qui évolue tellement vite qu'on va être largué, quoi.
Moi, je voulais revenir à la limite d'âge, parce qu'en fait, vous dites que vous faites jouer des jeunes qui n'ont pas forcément l'âge de jouer à ces jeux-là, mais peut-être que ces jeunes-là jouent chez eux à des jeux comme, par exemple, FIFA, qui est une limite d'âge assez basse, ouais, où ils ont le droit de jouer. Et en fait, en venant ici, ils viennent jouer à des jeux de 16-18 ans, qui sont peut-être plus violents ou peut-être pas appropriés pour leur âge. Mm-hmm. Donc, en fait, pourquoi prendre un risque de créer potentiellement des traumatismes ou des choses comme ça à ces enfants-là?
Alors, les jeunes, s'ils viennent chez nous, généralement jouent déjà à ce jeu. J'ai pas de jeunes qui ne jouent pas à ce jeu à la maison et qui viennent profiter chez nous de jouer à ça. On n'est pas, en fait, vu que les cours, c'est chaque fois sur un jeu spécifique, ils n'ont pas vraiment l'occasion de. Voilà. Alors, on a eu des histoires de jeunes sur des permanences, par exemple, à Fribourg, ils proposent une permanence, donc il y a juste un temps de jeu libre, on va dire. Puis d'un coup, ils jettent un œil, puis le gamin de 10 ans, il est sur GTA. Voilà. On lui dit non, on s'arrête, etc. Donc, on recadre le truc aussi. Mais
peut-être que je précise, GTA, Grand Theft Auto,
ouais,
voilà, qui est un jeu connu pour être particulièrement violent.
C'est une simulation de gangster. Voilà. Le principe du jeu, c'est ça. C'est simuler la vie d'un gangster, quoi. Donc, voilà, normalement, c'est pas censé arriver. On fait attention à ce genre de truc. Et justement, le but, c'est pas d'être un espace où ils peuvent venir faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire à la maison. Parce que ça, voilà. Je pense qu'on aurait des problèmes avec les parents aussi assez vite. En tout cas.
Ouais, moi, je voulais savoir, parce que je vois qu'il y a un accompagnement dans Noétique. Est-ce que vous avez pu constater une influence sur peut-être ce qui nous intéresse ici en tant qu'enseignant, les résultats scolaires, du fait que vous puissiez échanger avec eux peut-être sur. Par rapport à ça?
Alors, sur leurs résultats scolaires directement, non. Enfin, moi, je ne leur pose pas forcément la question de de leurs notes précises et tout. C'est plutôt, on arrive sur la fin d'année, donc c'est vrai que dans les discussions, moi, je leur demande souvent parce que. Alors, soit je vois dans leur état de fatigue ou truc où on sent que c'est la fin d'année. Il y a les examens, il y a les trucs, c'est parfois un peu plus demandant et tout. Donc, je leur demande en général comment ça se passe. La différence plutôt que je vois, c'est dans leur capacité à prioriser par moment, là où certains avant me semblait complètement éclaté, même en période d'examen et tout. Et puis on voit parce que souvent ils nous ont ajouté, on a mis dans les jeux auxquels ils jouent. Donc des fois on voit que la dernière partie elle est à 2h du matin. Normalement les cours le lendemain c'est à 8h. Tu gères comme tu peux gérer. Mais voilà, certains semblent avoir quand même pris conscience qu'il y a d'autres priorités, que ouais, le jeu vidéo c'est super cool, que comme beaucoup de choses. Il y a plein d'activités qui sont extrêmement chronophages, le jeu vidéo en fait partie, de conscientiser qu'il y a d'autres priorités. Si on passe tout son temps à jouer qu'à des jeux, il y a des problématiques derrière aussi. Donc je pense qu'on les aide un peu à ce niveau-là. Après, comme je dis, vraiment dans leurs résultats scolaires directement, j'ai pas forcément d'informations sur comment ça se passe pour eux.
Donc vous avez parlé pas mal de la prévention que vous faites auprès des jeunes, même s'ils ne sont pas forcément tous très jeunes, mais des jeunes qui viennent jouer. Est-ce que vous discutez aussi avec les parents ?
Alors, on est en lien avec les parents. On propose notamment, cette année, on a fait à Genève pour la première fois une table ronde pour les parents. Donc un moment où justement les parents des jeunes de l'académie peuvent venir et poser des questions, interagir avec nous et avec les autres parents sur la situation à la maison, leurs problématiques, etc. Puis un peu comment ils ont pu un peu résoudre les trucs aussi. Enfin, c'était intéressant où il y avait un papa qui était présent, qui est informaticien chez Microsoft et qui du coup en fait a expliqué tous les trucs de contrôle parentaux. Moi-même, je ne maîtrise pas spécialement le contrôle parental n'ayant pas d'enfant, mais alors lui par contre, il a expliqué à tous ceux qui étaient intéressés où fallait aller, comment mettre en place et machin et trucs. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir des espaces justement un peu d'échange comme ça aussi. Après, on fait aussi, à la demande des parents, des suivis un peu plus personnalisés, style bilan de fin de semestre. Alors bien juste, comme vous le faites probablement en tant qu'enseignant, quand vous avez des parents qui veulent venir vous voir ou à votre demande, vous voyez les parents avec ou sans le jeune. Et après, on a aussi dans les cas où les parents définissent qu'il y a un usage problématique chez leur jeune, on peut faire un suivi un peu plus personnalisé dans le sens où là, on va aller voir, généralement, ce qu'on applique, c'est une sorte de plan de jeu où on va regarder entre les besoins du ou de la jeune et les besoins des parents, qu'est-ce qu'on arrive à concilier, comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en place à la maison, et ensuite, derrière, d'avoir un suivi de, maintenant qu'on a mis ça en place, comment ça se passe, est-ce qu'on se rend compte d'un côté ou de l'autre que ça ne va pas pour l'un ou l'autre des parties, qu'est-ce que de nouveau on peut réadapter, etc., etc. Le but, c'est de faire participer beaucoup les jeunes là-dedans. Comme je disais avant, on essaye d'avoir des situations où les jeunes et leurs parents peuvent échanger au mieux. De faire participer les jeunes pour qu'eux soient investis aussi là-dedans, puis qu'ils prennent leur part de responsabilité aussi dans leur consommation.
Parce qu'en fait, les jeunes qui viennent jouer, c'est plutôt une demande de leur part de performer un petit peu mieux ou être encadré, ou c'est plutôt des demandes des parents en disant « j'en peux plus à la maison, essayez de faire quelque chose avec mon jeune ».
Alors c'est un peu 50-50. On a des jeunes qui arrivent là parce que ils ont des potes qui font les cours et donc ils trouvent ça trop cool et ils ont aussi envie d'avoir un moment où ils peuvent venir jouer, avoir un cours de jeux vidéo. Et on a aussi des jeunes qui sont là parce que les parents ont entendu parler de nous et ont un souci à ce niveau-là ou juste… Je trouverais chouette que leurs jeunes puissent faire un cours comme ça. Donc voilà, c'est en partie préoccupation des parents, en partie intérêt des jeunes.
C'est quoi la proportion de filles qui participent au cours ?
Alors, actuellement, 3%. J'ai une fille sur tous mes cours à Genève. J'en avais deux au semestre passé, il y en a une qui a arrêté. Et du coup, là, pour l'instant, j'en ai une. À Fribourg, ils ont beaucoup plus d'élèves. Je pense que la proportion est un peu plus élevée. Enfin, j'en vois un peu plus. Dans ma tête, j'en ai un peu plus en tête. Mais c'est clair que c'est un milieu qui est dans les représentations beaucoup plus masculin. Parce qu'il y a peu de temps, on est arrivé à la parité en termes de joueurs et joueuses. C'est-à-dire qu'il y a autant de joueurs que de joueuses sur le papier. Mais c'est vrai que dans les faits, entre peut-être le fait de l'assumer, le fait d'assumer une certaine pratique compétitive, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile pour les filles, en tout cas dans les représentations qu'on peut avoir autour de tout ça. Nous, on n'a pas d'explication directe de pourquoi, on n'en a pas plus, on est complètement ouvert à en avoir plus, mais c'est vrai que de manière générale, le jeu vidéo est quand même un milieu qui reste très masculin, et ça fait un peu boys club par moment. être une fille sur les jeux vidéo, ça doit pas toujours être très agréable. Pour avoir eu l'autre pan du truc, ben en fait, c'est pas rare qu'il y ait des filles qui arrivent et puis ben, les mecs qui sont présents, c'est les commentaires misogynes, c'est retour à la cuisine, enfin c'est des trucs qui sont vraiment, vraiment durs. Alors il y a un truc aussi avec le jeu vidéo, ben, quand on fait du jeu en ligne, on est avec des gens de cultures complètement différentes. Enfin, vous pouvez être dans une partie avec quelqu'un qui viendrait de Serbie, quelqu'un du Portugal, et puis quelqu'un du Danemark, par exemple. Et donc chacun a sa vision culturelle, enfin généralement culturellement imprégnée de bah, qu'est-ce qu'une femme dans leur représentation, quel serait le rôle de la femme et tout. Et donc bah, on a malheureusement des profils parfois qui sont vraiment très virulents vis-à-vis des femmes dans les jeux vidéo.
Parce qu'on sait si les joueurs contre lesquels on joue sont des hommes ou des femmes ?
Alors normalement pas, mais enfin en tout cas à la base du pseudo juste pas forcément. Mais bah il y a des jeux où en fait il y a la communication vocale où donc en fait bah, à partir du moment où vous parlez en tant que femme vous prenez un torrent d'insultes. Il y avait une vidéo très intéressante sur c'était un joueur professionnel de Counter Strike qui c'est une association de défense des femmes qui l'avait fait justement. Se mettre dans un contexte où il devait jouer une partie compétitive avec, à très bon niveau, parce que bah, voilà, c'est quelqu'un qui a un très bon niveau, mais avant de commencer la partie, il devait passer justement au filtre, il ne pouvait pas communiquer sans qu'il y ait un filtre qui fasse que sa voix était une voix de femme. Et bah, en fait, il s'est pris sur les parties, mais comme j'avais un torrent d'injures et de trucs, de commentaires misogynes extrêmement dégradants, où ben. Bah, à la fin de la vidéo, on le voit vraisemblablement choqué de ce qu'il vient de vivre, de dire « mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait être aussi violent et que c'était aussi, ben, malheureusement, un peu systématique. » Alors, il y a énormément de gens qui essayent de faire en sorte que ça change, qu'il y a beaucoup d'initiatives pour que ça aille dans le bon sens. Malheureusement, ce n'est pas encore comme ça partout et ce n'est pas démocratisé, disons.
Je remarque qu'en tout cas, autour de la table, il y a une majorité de femmes. Est-ce que vous avez encore des questions sur Noétique ? Sinon, on en a déjà parlé, mais on passe à la question plus jeux vidéo et adolescents, pratique des jeux vidéo par les adolescents, pratique parfois problématique, parfois pas aussi. Hein, qu'est-ce que ça peut avoir de positif ? Mais d'abord, est-ce qu'il y a encore des questions sur Noétique ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer avec une question sur...
Quand on parle de jeux problématiques, ça signifie quoi ? C'est à partir de quel moment on passe dans le problématique ?
Alors, déjà, c'est intéressant de commencer par ça, parce que tout à l'heure, quand on est arrivé, j'ai entendu plusieurs fois le mot addiction revenir et tout. Donc, je vais préciser que dans le cadre du jeu vidéo, on ne parle pas d'addiction, on parle d'usage problématique. Il y a une différence notoire entre un usage problématique et une addiction, c'est qu'un usage problématique est toujours... symptôme de quelque chose d'autre. Généralement, il y a un autre problème plus profond qui vient justifier un usage problématique. Et que dans le traitement de l'usage problématique, à l'inverse de l'addiction, il n'y a pas de traitement médical. En fait, si quelqu'un qui est addict, on rentre dans des traitements médicaux, psychiatriques, beaucoup plus lourds que juste un traitement thérapeutique potentiellement qui, lui, pourrait régler la situation. On collabore beaucoup avec un psychologue qui s'appelle Niels Weber, qui est un expert en hyperconnectivité et dans tout ce qui est numérique sur Lausanne. Et lui, ça fait une dizaine d'années qu'il est actif dans le secteur. Et selon ses propres dires, il n'a jamais réglé une situation où les parents arrivaient avec « mon enfant joue trop » en s'attaquant aux jeux vidéo. En fait, c'est toujours symptomatique de quelque chose d'autre. Que ce soit un problème à l'école, que ce soit des problèmes à la maison, que ce soit des troubles style TDAH, TSA, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de choses différentes qui peuvent justifier d'avoir un usage problématique. Un dernier truc sur la différence entre usage problématique et addiction, c'est que j'ai beaucoup de gens, parce que c'est clair et net que dans les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux et ce genre de trucs, il y a des mécanismes de rétention qui sont extrêmement forts. C'est clair qu'ils jouent là-dessus, qu'ils jouent complètement là-dessus. Et pour certaines personnes, ce serait justement la confirmation qu'on peut parler d'addiction. Dans le cadre d'une addiction, quelqu'un qu'on juge d'addict, comment on le traite ? Bah, généralement, on ne le traite pas en lui disant que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien et qu'il devrait faire autre chose. Et en fait, la réaction de beaucoup de parents face à leurs jeunes addicts, selon eux, c'est « tu ferais mieux de faire autre chose, tu perds ton temps, etc. » Et donc en fait... les mêmes personnes qui voudraient continuer à utiliser le terme d'addiction ont un comportement vis-à-vis de ce qu'eux considèrent comme des addicts qui est le pire comportement que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un qui l'est. Et voilà, du coup, je vous laisse avec ça.
Je rebondis sur ce terme d'addiction parce que moi je suis en lien avec des médecins et puis des infirmiers au SSEJ, donc au service de santé de l'enfant et de la jeunesse. Et puis bah, j'ai souvent dit en fait le terme addiction et souvent je me suis fait reprendre parce qu'en fait on n'est pas censé dire en tant que... On n'est pas des médecins, donc on n'est pas censé dire addiction, on devrait dire plutôt l'usage excessif. Ouais.
Excessif donc, ou problématique, ouais. Ouais. C'est le...
Donc voilà, c'était juste pour partager ça.
Ouais. Et puis il y a un autre truc, c'est que quand on dit à un jeune, du coup, que t'es addict, on lui met une étiquette qui est quand même très, très lourde à un âge où c'est pas forcément encore... voilà. Mais alors après, pour, parce que j'avais pas répondu pardon, à la question de qu'est-ce qui définit le jeu problématique, c'est généralement quand en fait ça va commencer à avoir une influence négative sur le reste de notre vie, si on commence à ne plus faire certaines choses parce qu'on préfère continuer à faire ça, si on va commencer à rater des obligations, des responsabilités, si justement dans le cadre d'un jeune, si les performances scolaires plongent. Enfin, en fait, à partir du moment où notre usage impacte négativement notre quotidien et qu'on n'arrive malgré tout pas à changer, on rentre dans un usage problématique. Ce qui est foncièrement très proche de l'addiction aussi, je suis d'accord. Mais voilà, c'est important de nuancer parce que... voilà. On traite avec des jeunes, et donc...
Donc un usage similaire.
Un usage similaire sur deux personnes pourrait être problématique pour l'une et pas du tout pour l'autre.
Oui, ouais, complètement. Parce qu'en fait, alors ça me permet de faire un lien sur la question du temps d'écran, qui est probablement un truc dont on aurait parlé, et qui est un des trucs dont les parents nous parlent le plus souvent, c'est le temps d'écran optimal, parce que pour beaucoup, c'est... Si je peux dire à mon enfant qu'aujourd'hui il a le droit à une heure, au moins c'est cadré, c'est une heure. En fait, nous, notre regard là-dessus, c'est plutôt que, si le ou la jeune, à l'école ça se passe bien, qu'il a des activités variées en dehors, que ce soit un instrument, du sport, il va voir ses copains, que c'est pas un comportement monomaniaque où il fait que de jouer à du jeu vidéo. Il a une vie sociale relativement développée et tout, finalement, il est où le problème dans le fait que quand il a du temps libre, il veut le passer sur des jeux vidéo? Généralement, le problème est lié plutôt aux représentations parentales du jeu vidéo et de ce que ça représente, de « oh purée, il pourrait faire ci ou il pourrait faire ça, par exemple, mon enfant ne lit pas ». Mais en fait, dans les jeux, il fait peut-être des jeux, des aventures solo où il est en permanence en train de lire du texte dans son jeu parce que en fait, c'est comme ça qu'il expliquait l'histoire du jeu, comme ça qu'il va trouver comment passer à la suite et ce genre de choses. Donc c'est souvent plutôt un problème de représentation que vraiment de... on va dire, pour nous, il n'y a pas de temps d'écran optimal. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps libre tant que ça n'a pas d'impact à côté.
Est-ce que d'ailleurs ce temps d'écran qu'on juge problématique chez un ado, on retrouverait le même temps d'écran chez un adulte et là, ça ne pose pas problème?
C'est vrai que oui, j'ai oublié de dire ça, mais c'est pas rare que ces mêmes adultes qui jugeraient à devoir réduire le temps d'écran de leurs enfants à un nombre très précis et généralement assez bas, c'est assez hypocrite quand on considère que beaucoup de ces gens vont passer autant de temps, soit dans le cadre du travail, pour beaucoup de gens, on ne remet pas en question le fait de devoir passer 4-5 heures devant un écran pour le travail, et avoir en fait à côté notre consommation numérique propre, donc à la maison, que ce soit de l'ordinateur, que ce soit du téléphone portable ou autre. C'est souvent assez drôle de demander aux mêmes parents qui vont réduire le temps d'écran de leurs enfants de regarder juste leur consommation numérique à eux, qui est généralement aussi élevée, voire plus.
Est-ce que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo sont un peu protégés des réseaux sociaux parce qu'ils aiment tellement jouer? C'est une question naïve, les réseaux sociaux, bof.
Oui et non. Je pense que certains ne sont pas forcément là. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des questions de personnalité. Certains sont vraiment là-dedans. Pas, parce que moi, j'ai des jeunes qui courent Valorant. Il y a un round dure 1 minute 30, disons. Et si vous vous faites éliminer avant la fin du round et que le round n'est pas terminé, vous regardez les autres jouer. Du coup, généralement, j'ai des jeunes qui vont avoir comme réflexe « je suis éliminé, mon round est terminé, je vais sur TikTok ». Et ensuite, il range le téléphone au moment où, paf, le round recommence.
Donc pour moins d'une minute et demie.
Pour moins d'une minute et demie. Ouais, mais entre-temps, ils ont pu voir 4 vidéos, donc quand même. Fin... Non, donc il y a des... Okay. C'est pas... Certains sont c'est à fond dedans, d'autres le sont un peu moins. Enfin, voilà, moi j'ai l'impression que c'est des questions plutôt de profil et de...
Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques aux jeux vidéo? Parce qu'on voit bien le problème d'addiction. Bah, peut-être d'ailleurs, avant de parler des effets bénéfiques... Parce que les...
Hmm c'est pas addiction.
C'est pas addiction, pardon.
L'usage problématique. Ouais.
Ces usages problématiques, vous avez dit. Donc les problèmes que ça peut avoir sur la vie courante, c'est de ne pas faire autre chose. Il peut y avoir des problèmes sur la santé, j'imagine, le sommeil, la vie sociale.
Ouais. Alors après, ben, finalement, comme... Parce que dans les autres exemples d'usage excessif, par exemple, il peut y avoir le sport ou le travail, qui sont aussi des choses dans lesquelles on peut se lancer à corps perdu pour ignorer d'autres problèmes, disons. Et du coup, ben, ouais, les conséquences négatives sont les mêmes généralement. En fait, c'est une absence d'équilibre qui est problématique. C'est que si vous faites du sport à outrance, vous allez probablement avoir des problèmes de santé qui sont pas les mêmes que si vous faites du jeu vidéo à outrance, mais qui seront aussi quand même... qui aura quand même des problématiques derrière aussi. Après, pour ce qui est des aspects bénéfiques, je ne les ai pas forcément en tête là, mais je sais qu'il y a Daphné Bavelier de l'UNIL et de l'UNIGE, qui est une spécialiste, je crois qu'elle est psy.
On avait reçu des chercheurs de son équipe. Hein.
Ok, ouais, voilà.
Et vous pouvez du coup dire deux mots quand même. Hein.
J'ai son nom en tête, et justement parce qu'elle a, ils ont tout un, je crois que c'est le Gaming Lab à l'UNIL, où ils sont justement en train de faire plein d'expériences autour de tout ça. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu une conférence d'elle il y a 10 ans qui montrait l'impact positif de ce qu'ils appellent les action games. Donc, en l'occurrence, c'était Call of Duty. Donc, des action games sur certaines compétences. Justement, je me souviens que l'exercice, c'était, vous avez un cercle donné dans lequel il y a des ronds jaunes qui se déplacent sur le cercle. Il y a beaucoup de ronds jaunes. Puis, il y a une partie de ces ronds qui deviennent bleus et qui continuent à se déplacer, qui redeviennent jaunes. Qui continue à se déplacer, et là vous devez dire où se trouvent ceux qui s'étaient transformés en bleu. Et ça, c'est un test que les joueurs de jeux vidéo réussissaient considérablement mieux que les gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo, par exemple. Parce que c'est vrai que moi, si je dois penser à ça et à certaines parties de jeu où il faut justement suivre un peu tout ce qui se passe à l'écran tout le temps, ça fait du sens. Alors après, j'ai pas forcément les résultats des études poussées et tout, mais je sais qu'eux travaillent énormément autour de ça et ont des résultats plutôt probants.
Ouais, je vais revenir un peu sur le e-sport, parce que ça me fait rebondir sur un truc, ce que vous dites. C'est que moi, je sais que les sportifs, mon fils avait fait ça notamment, il y avait des entraînements avec des simulations, avec des stimuli visuels pour développer la vision périphérique, des choses comme ça. Je voulais savoir aussi si ça se faisait dans le e-sport ou s'il y avait des exercices spécifiques pour augmenter ou développer certaines capacités physiques qu'on peut avoir, physiologiques, je dirais plutôt.
Alors, je sais qu'il existe beaucoup d'outils pour développer, en tout cas dans le cadre de l'e-sport, il y a des outils pour développer certaines compétences spécifiques au jeu. Genre, il y a des programmes qui sont développés juste pour améliorer un pan, on va dire, de nos pratiques compétitives. Par exemple, un truc pour viser, où c'est juste, vous avez en permanence des points sur lesquels vous devez cliquer, ou alors des trucs justement d'arriver à suivre, enfin visuellement d'arriver à suivre ce qui se passe. Mais alors après, que ça a été développé spécialement pour améliorer certaines compétences, enfin, pas à ma connaissance, en tout cas pas de mon vécu non plus, mais je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Par exemple, j'ai un exemple un peu similaire à ça, où je sais que dans le cadre des EMS, ils ont maintenant développé des machines de fitness, de sport, qui sont ultra connectées, qui font super envie, qui sont très ludiques, où en fait ça encourage les personnes âgées à utiliser cette machine-là. Le but, c'est de les encourager à avoir une activité sportive. Et on avait vu dans une des interventions qu'on avait pu donner, quelqu'un qui parlait justement de son public, qui nous disait que depuis qu'ils avaient mis ça dans leur EMS, mais tous les vieux se l'arrachaient. C'était vraiment, ils sont tous, ils font la queue pour aller utiliser cette machine et faire leur sport et tout. Donc ils étaient super contents de voir qu'on avait pu, par le biais d'un truc, très ludiques, arriver à les remobiliser autour de ça, quoi.
Pour rebondir un peu sur ta question sur le sport, je crois que ça remonte un peu maintenant en didactique de l'éducation physique. On avait vu qu'apprendre un sport, ça pouvait se faire soit on apprenait un sport en pratiquant le sport dans sa globalité, dans son ensemble. Dans le foot, on fait plein de matchs de foot et on va apprendre plein de choses à ce moment-là. Ou alors, pendant un entraînement, un joueur, un attaquant, il va taper la balle, mais à la chaîne, mais juste faire ce mouvement-là. Dans le jeu vidéo, je sais que c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup. J'ai déjà vu faire un peu des entraînements où soit on va faire un match complet, soit on va dans, comme tu en as parlé, on nous met dans un bout de partie où il faut faire une action en particulier, par exemple repérer le plus rapidement un ennemi sur son écran et tout de suite mettre sa souris dessus et lui tirer dessus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut s'entraîner, mais c'est là que je trouve assez cool la comparaison avec le sport. On est vraiment dans le même type d'entraînement, soit la globalité, soit dans un mouvement très précis. Mmh. Et c'est là que c'est très sportif. Et je voulais revenir aussi sur les avantages qu'on pouvait trouver aux jeux vidéo au niveau physique, physiologique. T'en as un petit peu parlé avec la recherche. J'ai participé à une recherche à l'Université de Genève en tant qu'assistant de recherche qui s'appelle SPAGEO, où en fait on mettait des élèves, c'était pour développer leur repérage dans l'espace, c'était de la visio-spatialité, et on allait dans les écoles avec une ville virtuelle, donc en fait on avait créé une ville virtuelle, et ils devaient se déplacer, on leur donnait un itinéraire, ils devaient le faire dans une ville, et on a pu constater, c'était encore léger, et puis on n'a pas pu faire assez, la recherche n'était pas assez grande, et puis bon, je n'étais pas le chercheur principal, donc je n'ai pas toutes les réponses, mais les élèves qui avaient fait les exercices de navigation dans la ville virtuelle avaient de meilleurs résultats de navigation dans le monde réel que certains élèves qui ne l'avaient pas fait dans la ville virtuelle. Donc en fait, je pense des joueurs de jeux vidéo qui se retrouvent tout le temps dans des espaces toujours très différents où ils doivent savoir où est la droite, la gauche, l'ennemi, il est là-bas derrière, il doit se tourner vers la droite, vers la gauche. Il y a tout un travail au niveau de la visio-spatialité qui est fait presque sans s'en rendre compte et qui apporte en fait de bonnes capacités à ce niveau-là.
Pour parler un peu de mon exemple personnel, j'ai constaté pour moi c'est probablement par le biais des jeux vidéo que j'ai développé justement un très bon sens de l'orientation, où j'ai ce truc en fait, dans beaucoup de jeux vous avez une carte, vous êtes à un endroit sur une carte au début. Et après, la carte est plus grande, mais il y a ce qu'on appelle le brouillard de guerre, le brouillard qui est donc en fait les zones du jeu que vous ne connaissez pas. Vous allez débloquer petit à petit. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en grandissant que j'avais beaucoup développé ma spécialisation autour de ça, dans le sens où ma ville de Genève, c'était comme ça pendant un temps. Les endroits que vraiment, il me manquait le lien entre tel ou tel quartier parce que j'étais passé par un autre côté, puis c'était un brouillard. Puis en fait, une fois que j'ai été dans le lieu puis que j'ai pu voir comment on allait d'un à un autre, ce brouillard a disparu. Puis en fait, après, à partir de là, c'était super clair et pendant 3 ans après, j'étais coursier à vélo, donc après avoir constaté ça. Et c'est vrai qu'en termes d'orientation, j'étais clairement pas le plus rapide, mais en termes d'orientation, je me plantais quasiment jamais, quoi. J'étais vraiment, je sais que j'ai assez bien. Et un autre exemple, c'est qu'il y a quelques années, je suis parti en Asie pendant quelques temps. Et on traversait le Vietnam en scooter et c'est moi qui m'occupais de justement la carte. Et à un moment, sur un bout de route de genre 1h30 où c'était tout droit tout le long, sauf un tournant, je sais pas comment, réussi à dire à mes potes, ok, on s'arrête maintenant, je suis pratiquement sûr que c'est ce tournant-là qu'on devait prendre, et c'était effectivement le tournant en question. Et alors, même moi, je comprends pas, mais vraisemblablement, j'avais repéré un truc dans la carte que j'ai pu revoir ensuite en vrai.
Et est-ce qu'on peut profiter de l'attrait des jeux vidéo, c'est peut-être une question aussi qui intéresse les enseignants, pour faire jouer les jeunes à des jeux ludopédagogique, ça c'est quelque chose que vous connaissez un peu, un domaine que vous connaissez un peu,
ou... Alors, assez peu, j'ai peu d'exemples de jeux comme ça, mais je sais que c'est quelque chose qui marche très bien, je sais que ça se développe de plus en plus. Il y a aussi le pan des serious games, je crois que ça s'appelle, qui sont des jeux où on cherche en fait à développer des compétences, enfin à faire développer au personnel des compétences spécifiques dans le cadre du travail, mais les jeux éducatifs, personnellement j'ai grandi avec Adibou. C'était exceptionnel, j'ai appris énormément de choses grâce à Adibou, et je pense que ce genre de truc, en tout cas pour ma génération, moi j'ai pas, je sais qu'il y a les pousse-pousse ou les sam-sam, et ce genre de trucs auxquels moi j'ai pas joué, mais je sais que ceux qui y ont joué gardent aussi de super souvenirs de tout ça, où c'était des jeux, c'était tout bête, mais le principe, c'était vraiment de, voilà, d'apprendre des bases de calcul, d'apprendre des bases de lecture, mais aussi de trucs... je me souviens, dans la Dibou, il y avait tout le cycle des saisons, avec les pommes, les poires, les... Enfin, tout des... Ouais, je pense que j'ai développé plein de compétences autour de tout ça, mais c'est très dur maintenant avec le recul. Mais ouais, je sais que je passais énormément de temps là-dessus et que ça m'a appris des trucs. Donc je pense que oui, les jeux éducatifs sont un bon moyen d'amener les jeunes à s'intéresser à certains sujets. Ou en tout cas, si on voit spécifiquement qu'il y a des sujets qui ne fonctionnent pas du tout de manière traditionnelle, on va dire, avec certains jeunes, c'est peut-être intéressant d'essayer de voir s'il n'y a pas un jeu ou autre qui pourrait les aider à développer certaines de ces compétences.
Je pense que c'est, ça peut parfois être une fausse bonne idée, parce que si le, comme n'importe quoi, si le jeu n'est pas accompagné, ils ne vont pas nécessairement retirer quelque chose. Et il y a toujours l'effet de la nouveauté. Et puis quand ça commence à devenir sérieux, trop sérieux, là tout d'un coup, ça devient beaucoup moins amusant. Mm-hmm. Et puis au bout d'un moment, ils en ont marre de toute façon. Donc le jeu, c'est très bien, mais pas tout le temps, partout, n'importe comment. Donc, et puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que peut-être que les profs de primaire peuvent mieux répondre que moi. Les enfants qui viennent de milieux défavorisés, moins stimulants, ils sont aussi défavorisés face au jeu, parce qu'il y a toute la partie, non explicite qui est plus compliquée pour eux. Enfin, je ne sais pas si c'est...
Comme ça, j'arriverai pas trop à dire.
J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qu'ils arrivent à partager. Je prends un exemple. J'ai un élève ukrainien qui est arrivé il y a quelques semaines. Et la première discussion qu'il a pu avoir avec un copain de classe, c'était... en fait, ils ont compris les deux qu'ils jouaient à Roblox. Et puis, ils ont commencé à en discuter énormément. Alors après, ça, c'est plus le côté lien, la première chose qu'ils pouvaient partager. Maintenant, faire les deux ensemble un jeu vidéo, je ne sais pas... Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le message de...
Les enfants de milieux défavorisés, par exemple, ils n'ont jamais eu l'histoire du petit chaperon rouge et puis ils ont plus de mal à faire des liens qui ne sont pas concrets. Ce n'est pas « maintenant tu manges, maintenant tu vas te coucher », enfin des trucs hyper concrets de base. Dès qu'on est dans le méta, et puis le jeu, c'est ça, il y en a qui n'ont jamais joué au memory de leur vie. C'est particulier quand même. Mm-hmm. Il faut leur expliquer le jeu de memory, c'est ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, mais il y en a pour qui il ne faut pas oublier ceux pour qui ça ne veut rien dire. Voilà.
Ouais, alors nous, dans une formation qu'on a pu donner, dans le cadre d'une formation qu'on donne, moi j'ai pu voir effectivement, lire des articles sur en fait, le fait que le numérique renforce les inégalités sociales pour les gens qui ont justement de base un moins grand bagage autour d'eux. En fait, c'est le niveau d'études et le niveau social ont une influence sur notre capacité numérique. Et ce qui est relativement logique. Si on regarde les études universitaires, de nos jours, c'est impensable de ne pas avoir d'ordinateur quand on fait des études universitaires. Pour quelqu'un qui s'arrêterait peut-être qui s'arrêterait pour faire un apprentissage, par exemple, soudainement, cette question-là ne rentre pas du tout en compte. Et autour des apprentissages aussi, personnellement, beaucoup de mon apprentissage de l'ordinateur s'est fait à l'école. À l'époque, dans les classes... moi, j'ai fait ma scolarité au milieu des années 2000. Dans les écoles, c'était développé les salles d'informatique. On avait un cours d'informatique. On avait un temps dans les salles d'informatique par semaine. Donc, il faut aussi avoir la capacité derrière d'avoir été en contact avec tout ça pour apprivoiser un peu ces outils et les compétences liées à tout ça. Il y a un autre truc aussi dans les plus basses classes sociales, c'est qu'en fait, ils ont constaté que bien souvent, l'apprentissage du numérique par les parents se faisait par le biais de l'enfant. En fait, c'était pas rare que pour les classes sociales moins favorisées, justement, ils se confrontent au numérique parce que c'est amené par le ou la jeune dans la famille, et que du coup, c'est le ou la jeune qui a les compétences autour de l'outil. Et alors évidemment que quand c'est votre jeune qui vous apprend comment maîtriser le truc, il va aussi apprendre à vous manipuler un peu autour de tout ça. Enfin, si c'est lui qui vous aide à mettre en place le contrôle parental, c'est clair qu'il ne va pas tenir très longtemps. Mais...
Quel est le rôle de l'école ? Parce que les parents ont un rôle sur l'éducation aux jeux vidéo, mais l'école, qu'est-ce que vous diriez de sa place ?
Alors, l'éducation aux jeux vidéo, je ne sais pas forcément si ça a sa place à l'école.
En tout cas, sur le discours qu'on peut avoir autour du jeu vidéo, est-ce qu'on a un discours de prévention à avoir ?
Je ne sais pas ce que c'est le discours actuel, justement, dans les classes et quelle est la position générale des enseignants aux enseignantes vis-à-vis de tout ça. Mais voilà, nous, on n'a pas d'inconvénients aux jeux vidéo. Enfin, je pense que, du coup, vous l'avez compris. Mais on est conscient qu'il y a plein de problèmes. Et donc, c'est... Ouais. Il faut être conscient de ces problèmes. Il faut pouvoir prévenir les gens, sensibiliser, prévenir, donc faire attention à certains de ces pans-là. Mais concrètement, on ne va pas... Enfin, voilà, on ne recommande pas d'interdire complètement le truc. Donc, la position après, en tant qu'enseignant vis-à-vis de ça... Je pense qu'il faut s'inquiéter si on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas justement dans le comportement de l'enfant, dans ses résultats scolaires, ou ce genre de choses. Et on peut poser la question de, est-ce qu'il y a un usage excessif derrière le jeu vidéo ? Mais je ne pense pas que votre rôle en tant qu'enseignant, ce soit, vous ne pouvez pas forcément aller plus loin, on ne peut pas rentrer dans le cadre familial. Ça, c'est des trucs qui vont devoir se régler à la maison. Après, par contre, si c'est aussi un problème à l'école, parce que je sais que notamment les jeunes jouent énormément à Brawl Stars en ce moment et que... C'est typique, c'est un jeu mobile, donc c'est tout à fait le truc qu'ils pourraient mettre dans leur trousse. Enfin, je le faisais aussi à l'époque. Hein, voilà, on met le téléphone dans la trousse ou un truc juste pour histoire d'être scred. On pense l'être, mais on ne l'est pas trop. Mais si ça devient un enjeu à l'école, là oui, je pense que c'est important de pouvoir parler aussi de ça avec les parents, de dire que ce n'est pas acceptable. Si ce n'est pas acceptable dans le cadre scolaire, il faut pouvoir leur dire. Après, je pense que, comme un peu tous les aspects, vous avez le droit de vous investir là-dessus, vous avez le droit d'avoir votre avis et de donner des conseils, mais vous ne pouvez pas non plus dépasser votre cadre de juste enseignant.
Mais au-delà des usages problématiques liés à peut-être un excès de jeux vidéo, c'est tout ce que vous faites à Noétique quand vous parlez de
micro-transactions,
comment on organise son temps de jeu, et tout ça, c'est des choses dont on pourrait imaginer qu'elles soient discutées à l'école, le plus tôt possible peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas ce que les enseignants en primaire autour de la table pensent, mais...
Alors, dans le plan d'études roman, en éducation numérique, on a des objectifs qui sont assez clairs et qui viennent dès le cycle 1 sur amener un peu des discussions sur la place de l'informatique dans la société en général. On pourrait imaginer des enseignantes et des enseignants qui discutent de jeux vidéo. Après, il faut qu'eux-mêmes aient cette culture-là, micro-transactions, je ne suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Donc voilà, c'est assez... On a ce plan d'études qui nous aide, mais il faut encore que les gens puissent bien l'interpréter. Puis, voilà.
Okay. Alors j'enseigne l'informatique et puis on a fait un sondage auprès des élèves pour les faire travailler sur les données. Puis une des questions, c'est combien d'heures vous passez et tout ça. Moi, j'ai essayé de leur faire faire la corrélation. Si on est beaucoup d'heures sur les réseaux, sur les écrans, nos notes sont moins bonnes. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'était ça l'hypothèse. Puis en travaillant, on a travaillé avec un tableur, on a travaillé en programmation Python, on a analysé les données. Et puis on a prouvé qu'en fait, la corrélation était fausse. Donc, tout est possible. Ouais.
Je vous dis ça, par contre, il y a l'étude entre les heures de sommeil et les résultats scolaires et l'influence des jeux vidéo. Peut-être si elle est problématique.
Je dis, les jeux vidéo comblent un vide aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes de sommeil va chercher à combler le vide. Mm-hmm. Enfin, il y a les deux.
Je pense qu'un usage excessif peut entraîner des problèmes. Généralement, ça implique de sacrifier des heures de sommeil ou des heures de cours. Il y a un des deux qui... Enfin, pour pouvoir avoir plein d'heures de jeux vidéo, il faut un peu faire... Moi, j'avoue, c'était les heures de sommeil et du coup, je dormais en cours.
On arrive effectivement à la fin de l'entretien. Si encore une question, on la prend. Sinon, je propose à Lucien d'avoir le mot de la fin. Peut-être avec une... Puisqu'on a terminé un peu sur le rôle de l'école. Et puis, voilà, pour conclure sur notre présence à nous, avec vous. Donc nous, enseignants, qui nous intéressons donc à cette problématique, est-ce que vous avez un message à transmettre aux enseignants ?
Le jeu vidéo, c'est très chouette. Et je vous encourage vraiment à essayer de jouer avec les gens. Alors, je ne sais pas si dans le cadre de l'école, c'est vraiment quelque chose qui est faisable, parce que vous avez des classes qui sont quand même conséquentes, et donc d'arriver à superviser ce genre de trucs, ce n'est pas forcément facile. Mais le jeu vidéo, c'est vraiment un espace chouette pour créer du lien aussi. Là, ça rentre plutôt dans, je pense, vos pratiques personnelles, mais il y a... voilà, ne vous fermez pas forcément à ce monde-là parce que c'est quelque chose que vous connaissez peu. C'est vraiment un monde super dans lequel il y a énormément de choses à faire, à partager. Bah, par exemple, je citais avant It Takes Two, qui est un jeu formidable que je vous recommande de faire si vous avez l'occasion de faire ça avec un ou une jeune, enfin un ou une de vos jeunes. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des super espaces, il y a de très belles aventures, on apprend plein de choses, ça amène plein de réflexions, ça génère énormément d'émotions. Mais voilà, l'important c'est... Oui, un truc, soigner les transitions. Vraiment, une session de jeu vidéo, ça génère plein de choses. C'est important d'avoir un espace où en parler après, autre que le repas, par exemple, où vous allez vous retrouver avec peut-être le ou la jeune qui est très frustré par ce qu'il a pu vivre dans sa partie et qu'il l'extériorise sur le reste de la famille plutôt que d'avoir juste pris le temps avant de pouvoir discuter avec lui ou elle de ce qui s'est passé, de ce que ça a fait, comment on gère tout ça, etc. Parce qu'on a peu parlé de l'aspect émotionnel des jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà, génère plein de choses. Chez des jeunes qui n'ont pas toujours les compétences aussi pour gérer tout ça, ou la capacité de conscientiser que c'est ce qui est en train de se passer.
Il faudra donc vous réinviter pour que vous nous parliez des aspects émotionnels. Merci, donc on se rappellera que ce serait dommage de se fermer à ce monde des jeux vidéo. Et tout ce que vous avez dit d'autre dans cet entretien. Merci à toutes et à tous et bonne journée.
Merci.